On va parler maintenant médicaments, parce qu'on va essayer de se redonner espoir par rapport à ce maudit virus. Là, ça fait des jours qu'on en parle ici, ça peut-être deux semaines au moins. Là, ça a commencé d'ailleurs à la fin février. C'est une vidéo qu'un médecin de Marseille avait mis en ligne qui a parti tout le débat sur la chloroquine. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce que c'est un miracle? Remède miracle ou remède mirage? Pour en discuter, on va aller rejoindre celui qui est docteur Marc Lacroix qui est au bout du fil. Salut Marc!
Bonjour Eric, ça va bien?
Oui, écoute Marc, je veux d'abord que tu nous expliques, la chloroquine, là, c'est bien le médicament qu'on prend quand on va dans le sud puis qu'on va dans des endroits où il y a de la malaria. C'est le médicament qu'on prend contre la malaria, c'est ça?
En fait, la chloroquine, oui. L'hydroxychloroquine, qui est plus précisément le médicament dont on parle de plus en plus, c'est le petit cousin de la chloroquine.
Okay.
L'hydroxychloroquine, lui, est utilisé beaucoup dans les maladies auto-immunitaires comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé. Donc, toutes les maladies où le système immunitaire se bat contre nous, donc le système immunitaire a un petit peu une overreaction envers nous et crée des problématiques inflammatoires dans le système. Le Plaquenil, ça c'est le nom commercial qui est produit par la compagnie Sanofi. C'est le Plaquenil actuellement qui est utilisé, mais c'est le petit cousin de la chloroquine qui est effectivement le médicament qu'on utilise et qu'on utilise depuis les années 50 dans les traitements là, contre la malaria des patients, par exemple, qui vivent dans des pays où la malaria est présente, ou des gens qui voyagent dans des pays où il y a la présence de la malaria, on va le donner. On prescrit régulièrement ça, même comme médecin de famille, ce type de médicament-là.
Toi, t'as-tu déjà prescrit les deux?
Tu veux dire l'hydroxychloroquine?
Oui.
En fait, l'hydroxychloroquine, normalement, c'est un rhumatologue qui va prescrire ça à un patient qui, après la confirmation de la polyarthrite rhumatoïde. Mais c'est sûr que nous, dans nos bureaux, on en renouvelle régulièrement là, de ça, parce que des fois, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas nécessairement besoin de revoir leur spécialiste. Ils peuvent être suivis par un médecin de famille quand leur condition est stable. Et c'est sûr qu'un médecin de famille va renouveler ce type de médicament-là régulièrement, effectivement.
Là, on a compris qu'un médicament, là, c'est très compliqué à faire homologuer, à s'assurer que ça devienne, ça rentre sur le marché. Celui-là, il existe déjà, mais c'est pour d'autres types de maladies. Le processus, ils sont en train de le raccourcir parce qu'il y a déjà des gens, il y a déjà des pays qui l'utilisent, il y a déjà des médecins qui le prescrivent, même au Nouveau-Brunswick maintenant, ici au Canada. Comment ça se fait que ça varie autant d'une place à l'autre? Puis qu'est-ce que ça prend pour qu'au Québec, on dise « OK, on peut le prescrire »?
Ben, mes premières études, à date, il y a à peu près 3 études là, cliniques qui ont été faites. Les premières ont été faites en Chine, dans le coin du mois de début février. Les Chinois se sont rendus compte qu'il y avait un impact positif sur le outcome de patients qui étaient traités avec la chloroquine versus ceux qui ne l'avaient pas, l'hydroxychloroquine, je m'excuse. Et c'est des petites études, des petits nombres de patients, mais on dit que cette étude-là était randomisée. Ça veut dire qu'une étude randomisée, ça veut dire le patient, il y a un groupe de patients qui reçoit le traitement X, et l'autre groupe de patients reçoit le traitement, pas de traitement finalement, pas d'hydroxychloroquine, mais personne ne sait dans le groupe pour ne pas avoir les effets placebo. Donc, il appelle ça randomisé à double insu, c'est-à-dire que le patient ne le sait pas.
C'est sûr. Ceux qui prennent la pilule pensent qu'eux, juste leur morale est meilleure, fait que leur taux pourrait être meilleur au niveau du succès. Fait qu'on va être sûr. On donne des pilules à tout le monde, puis personne ne sait qui a le vrai médicament et qui ne l'a pas.
C'est ça. Puis là, à la fin, ils partagent les statistiques. Qui a guéri plus vite, qui a eu moins de complications, exemple de pneumonie, qui a eu moins de complications d'intubation, soins intensifs, etc. Ils ont conclu que statistiquement, c'était significatif pour dire qu'il y avait effectivement un effet qu'on comprend mal. Hein? On ne sait pas l'hydroxychloroquine par quel mécanisme, à l'heure actuelle, elle serait efficace contre cette maladie-là. Il y a 2 possibilités. On connaît la capacité intrinsèque de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine en passant, qui ont un effet antiviral documenté dans la nomenclature, mais qu'on comprend mal encore. Donc, c'est-tu l'effet antiviral direct du médicament qui crée ça, ou encore, est-ce que c'est l'effet immunomodulateur? C'est-à-dire que le médicament, il va moduler, particulièrement dans les cas d'arthrite ou de maladies auto-immunitaires, comme je le disais tout à l'heure, il va moduler, il va réguler la réponse immunitaire dans le corps humain. Et ils vont éviter, dans le cas de la maladie de la COVID, ils vont éviter la tempête inflammatoire immunitaire qu'on voit régulièrement dans les cas qui compliquent, qui se situe surtout au niveau pulmonaire. Donc, les gens, le virus s'en va dans l'épithélium pulmonaire, s'en va dans les cellules des poumons et là, crée des... se réplique, hein, il ordonne à la cellule du corps humain de répliquer parce que le virus en soi, il pourrait pas se répliquer lui-même. Il a besoin d'une cellule humaine. Et puis là, il rentre dans la cellule, et là, il dit à la cellule, maintenant, c'est moi qui te contrôle, tu vas me répliquer. Fait que là, il se sert de toute la machine à répliquer des cellules. Il devient nombreux, nombreux, nombreux. Et là, il crée une réponse inflammatoire immunitaire dans le poumon qui amène une tempête de cytokines qui appelle une tempête inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le système va engendrer une réponse immunitaire très, très forte et ciblée dans le poumon qui va amener toutes sortes de médiateurs inflammatoires, dont les cytokines, qui vont amener aussi des vasodilatations dans les poumons, donc des petites artérioles, des petits capillaires pulmonaires vont se dilater. Et donc, par le fait même, il va avoir une perméabilité accrue qui va faire que la phase aqueuse du sang, le plasma, va s'en aller vers les alvéoles pulmonaires, remplir les alvéoles pulmonaires. Et là, tu te ramasses au bout de quelques heures ou quelques jours avec des poumons pleins d'eau, pleins de liquide. Et là, tu comprends qu'à ce moment-là, tu n'as plus d'échange gazeux.
Ouais.
Et là, ça a besoin d'être sous respirateur. Puis là, tu espères que ça va s'en aller, tout ça. Donc, est-ce que l'hydroxychloroquine n'aurait pas un effet au niveau immunomodulateur qui empêcherait ou modulerait cette réponse immunitaire inappropriée-là au niveau du poumon qui engendre le liquide dans le poumon? Si c'est ça, ben tant mieux. Ou bien c'est aussi un effet qui soit direct, qui soit un effet au niveau du virus lui-même, donc un effet antiviral. Donc, on le sait pas encore, mais en même temps, là, on est en temps de crise, on est en temps de guerre. Tu sais, Eric, quand on va en médecine, on nous dit toujours la première chose, c'est primum non nocere, qui veut dire en latin, dans le fond, première chose, ne nuisez pas à vos patients par les actions que vous allez poser ou par les traitements que vous allez leur prescrire. On connaît l'hydroxychloroquine, connaît aussi
ça,
la chloroquine.
Parce que je me fais dire tout le temps qu'on ne peut pas le faire. D'ailleurs, des pharmaciens qui m'écrivent là, sont enragés après moi. Ils me disent que je propage la mauvaise nouvelle quand je mets des affaires sur Facebook en faveur puis que je partage les études là, du docteur Raoul. Ils me disent que on peut pas faire ça parce qu'il peut avoir des effets secondaires imprévisibles. Sauf que si vous l'utilisez depuis 70 ans, vous le savez, c'est quoi les effets secondaires comme médecin? Vous le savez exact. Si votre patient, il peut ou pas en prendre?
Ben, les effets secondaires sont particulièrement au niveau cardiaque. Donc, tu peux avoir des cardiomyopathies, des atteintes au niveau du muscle cardiaque, ou tu peux avoir aussi des problèmes du rythme cardiaque.
Fait que tu ne prescris pas au cardiaque. C'est ça l'idée, là.
Exact. Donc, un patient qui a des problématiques du rythme cardiaque, c'est peut-être pas le premier patient à qui tu vas le prescrire. Mais quand on le donne, la chloroquine, moi pis toi, là, chez des patients qui voyagent à l'étranger, c'est excessivement rare qu'un patient va devoir avoir un électrocardiogramme avant de partir avec la malarone.
Oui, mais l'ont prescrit, puis ils m'ont jamais posé de questions. Je reproche pas ça à mon médecin, là, mais il m'a jamais posé de questions. Il m'a prescrit ça parce qu'il m'a regardé dans quelle zone du monde je m'en allais, puis il m'a dit, oui, ça te prend telle affaire. Tiens, voilà tes pilules contre la malaria.
Et pour ton information, Eric, tu iras voir aussi, là, tu parles beaucoup du docteur Raoul, Didier Raoul, là, qui est à Marseille, en France. Va voir aussi ce que le docteur, qui est un immunologiste là connu et réputé aux États-Unis, le docteur Stephen Smith,
oui.
Il est au New Jersey, qui est un immuno-allergologue, qui fait de la recherche aussi. Et lui aussi a des études cliniques en cours qui sont très, très, très prometteuses. Et lui, dans son cas, pour justement là, un peu clouer le bec à ceux qui disent c'est dangereux pour le cœur, la fameuse hydroxychloroquine, il a demandé à tous les cardiologues de son hôpital de faire des électrocardiogrammes avant le traitement et pendant chaque jour du traitement pendant. Et il s'est rendu compte que c'était très, très mineur dans la population. Je pense qu'il y avait environ 80 patients qui étudiaient. Il a vu très peu d'effets qui pouvaient amener à cesser le traitement, mais il n'a pas eu à le cesser dans aucun des cas. Mais il a pris la précaution d'avoir un électro avant et pendant le traitement à tous les jours. Il n'y a eu aucun problème. Donc, okay. C'est toujours la même chose en médecine. Est-ce que le traitement peut aider? La réponse avec l'hydroxychloroquine actuellement, c'est selon les études qu'on voit, possiblement, même probablement, de plus en plus que ça va aider. Puis tu sais qu'ils ont passé un sondage national hier ou avant-hier aux États-Unis aux médecins,
ouais.
Relativement à ça. Tu sais que tout le monde embarque dans l'idée que c'est le meilleur traitement. Le sondage démontre qu'auprès de la communauté médicale aux États-Unis, l'hydroxychloroquine est, selon les médecins, le traitement actuellement préconisé. Donc, puis le docteur Stephen Smith là, du New Jersey, pour lui, c'est un game changer actuellement parce que ce qu'il constate, c'est que ceux qui reçoivent le traitement n'ont pas les complications sévères qu'on redoute, c'est-à-dire soins intensifs, mais surtout respirateurs.
Okay.
Alors, tu comprends, Eric, si avec ce traitement-là qu'on administrerait aux patients hospitalisés qui sont positifs au niveau du COVID et qu'on réduisait, exemple, de 50% le risque d'aller vers l'intubation, tu comprends que l'enjeu d'avoir assez de respirateurs puis d'avoir assez de
place... Il n'y en a plus d'enjeu,
là. Intensifs, on vient de régler un méchant problème.
On vient de régler la moitié du problème. Est-ce qu'il y a un danger, parce que là, j'ai vu que les pharmaciens ont reçu des ordres de la santé publique de ne plus le vendre. Même si toi, tu le prescris à tes patients, ils vont pas nous le vendre. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie présentement? Puis c'est-tu un médicament qui est très cher?
C'est pas un médicament qui est dispendieux, c'est un médicament qui est prescrit, qui est prescrit régulièrement pour plusieurs conditions de santé, mais qui actuellement les stocks sont pas énormes. Il n'y a pas 50 milliards de doses dans le monde. Là, on a quelques centaines de milliers de doses. C'est pour ça que les gouvernements, quand ils ont vu que le médicament avait possiblement un impact là au niveau du traitement de la COVID, tous les stocks ont été gelés. Puis j'ai même essayé il y a 2-3 semaines de voir si c'était disponible. Puis tous les pharmaciens que j'ai consultés m'ont dit c'est gelé, c'est back order, on peut pas en avoir nulle part. Puis même des patients, Eric, qui prenaient du Plaquenil, de l'hydroxychloroquine pour leur arthrite, actuellement sont même plus capables d'en avoir.
On renouvelle plus leur prescription quand ils vont en pharmacie, là.
Exact. Puis pourquoi? Ben parce qu'ils gardent les stocks pour les hôpitaux en cas de crise, ou est-ce que là, vraiment, on aurait besoin de toute cette médication-là pour les patients hospitalisés qui peuvent éventuellement compliquer? On veut garder une mainmise sur tous les inventaires disponibles. Puis sache qu'actuellement, la compagnie Sanofi, qui produit ce médicament-là, actuellement, depuis le mois de février, a ouvert la machine et est en train de produire des millions de doses de ce médicament-là.
C'est ça. On est capable d'en produire des millions de doses, là. Puis est-ce que même au Québec, on pourrait en produire au Québec?
Ben, le générique, je sais pas comment on fonctionne là, avec ce médicament-là. J'imagine qu'il y a des génériques et des équivalents. Je n'ai pas fait de la recherche à ce niveau-là. Mais c'est pas une recette qui est très compliquée à faire. Donc, j'imagine que Sanofi le fait, mais il doit y avoir aussi d'autres compagnies qui produisent des médicaments équivalents aux copies ou génériques qui doivent en faire actuellement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on risque d'avoir suffisamment de doses là, pour tous les patients qui arriveraient dans les hôpitaux et que ça éviterait possiblement d'avoir beaucoup de complications, parce que c'est ça qu'on redoute. C'est un virus qui est respiratoire et qui amène des complications respiratoires, principalement la détresse respiratoire, l'édème pulmonaire, la pneumonie, et donc l'intubation qui vient avec. Et tu sais qu'actuellement, l'outcome d'un patient intubé avec le coronavirus, et la mortalité actuellement, la moyenne dans le monde, c'est 86%. C'est que quand t'es rendu au tube, t'as beau avoir un respirateur et qu'il n'y a pas beaucoup de chances que tu vas t'en sortir. Tu comprends?
Mais oui, 86% des chances que tu vas mourir si t'es rendu jusque-là. Je veux que tu me dises, parce que là, le coût, là, j'ai lu là, sur les sites européens puis français, ils nous disent que c'est à peu près 2 euros. Ça veut dire à peu près 3 piastres, ça? Ça a-tu de l'allure, c'est-tu vrai? Ou?
Ah oui, ça aurait de l'allure. Ça, j'ai pas vraiment revisé
le prix. Ça, c'est
prix, mais c'est vraiment pas un médicament qui coûte cher. C'est un médicament qui est là, c'est vieux comme la terre. Et c'est un médicament qui se produit relativement facilement. C'est pas quelque chose. Tu sais, si c'était un nouveau médicament, Eric, là, qu'on avait développé là il y a un mois, là, puis là tout d'un coup là, on pense que ça va marcher. On serait probablement beaucoup plus réticent à le prescrire. Mais ça fait plus que 50 ans qu'on le donne à des centaines de millions de patients dans le monde.
C'est pas possible.
À un moment donné, il faut arrêter. T'sais, moi, je me dis, si c'est possiblement versus probablement efficace contre la condition et que c'est sécuritaire, ben la question, à un moment donné, ne devrait pas se poser trop longtemps si on l'essaye ou pas. Là.
Je veux que tu me parles, là, on parle de pénurie là, de la chloroquine, mais il y a des pénuries aussi de médicaments de façon générale. Après les masques, là, ils ont dit que les hôpitaux s'inquiètent de manquer certains de médicaments en cause de la pandémie. C'est ça qui arrive à partir du moment où tu shut down l'économie, là, tu fermes tout, là. Tout le provisionnement devient compliqué. On a la même peur pour la bouffe, là, on a la peur pour les médicaments. Ils ont fait quoi, là? On n'a jamais vécu ça, là, nous autres, là, qu'on manque de médicaments puis qu'on peut plus aller à la pharmacie, là. Tu crois-tu à ça ou c'est de faire peur au monde, là?
Bon, écoute, je sais pas jusqu'à quel point là, la pénurie de médication au sens large est un problème épouvantable actuellement. J'ai pas cette impression-là pour le moment, mais c'est sûr que dans les chaînes de production et d'approvisionnement actuellement, il y a tout qu'un charabia de. C'est pas comme si c'était il y a 2 mois. Là. Donc,
il y a des ruptures d'inventaire qu'on me dit, là.
Il y a des inventaires. Est-ce que le gouvernement aussi garde main mise sur certains médicaments qui pourraient éventuellement juger essentiels dans la crise dans les hôpitaux? Je ne le sais pas. On ne sait pas tout ça. Là. Mais reste que pour les masques, oui, il y a des problèmes d'inventaire, Éric, mais je pense aussi qu'il y a un problème de gestion des inventaires parce que combien de masques actuellement, des N95 et des différents types de masques ont été jetés aux poubelles après une simple utilisation de quelques heures, probablement des milliers à l'heure qu'on se parle, quand on sait qu'un N95 peut être nettoyé et désinfecté une vingtaine de fois par masque. Ça veut dire qu'une personne fait presque un mois avec un masque N95 s'il l'entretient adéquatement. Donc, je pense que la gestion des inventaires, là, c'est aussi un gros problème que c'est l'utilisation du masque il y a 3 semaines, alors qu'il y avait à peu près 3 cas au Québec qui avaient le coronavirus. C'était peut-être un peu trop tôt pour commencer à utiliser ça dans les hôpitaux en quantité importante. Puis même les médecins qui sont au front, moi j'en vois actuellement, j'écoute des vidéos de médecins qui sont au front dans les urgences à Chicago, à New York, partout à travers de la corona. Ils mettent pas de masque autrement que s'ils sont en contact direct avec le patient parce qu'ils veulent économiser les stocks. Puis en même temps, l'utilité d'un masque, si tu le mets à la journée longue, dans des circonstances qui sont pas nécessairement appropriées, le fait que tu touches beaucoup le visage, que tu vas réajuster ton masque, que tu vas te gratter les yeux, etc., c'est pas clair que tu vas être vraiment plus protégé avec un masque à journée longue dans le visage versus si tu l'utilises au bon moment quand tu te rapproches du patient pour faire certaines techniques. Là.
Je veux que tu me répondes à deux choses, là, parce que l'Ontario vient de rendre public ses projections. On regardait notamment le nombre de morts, le nombre de décès que le gouvernement s'attend. Il y a un scénario optimiste, pessimiste, mais c'est quelque chose comme entre 3 et 15 000 personnes qui décéderaient du coronavirus selon le ministère de la Santé et la Direction de la Santé publique en Ontario. 3 000, là, c'est le nombre de la grippe à tous les ans en Ontario à peu près. Là.
C'est un scénario. Le Québec, c'est peut-être entre l'influenza, là, la grippe, c'est à peu près 300-400 par année au Québec, de normalement. Dans les grosses épidémies où le virus est un peu plus agressif, ça va jusqu'à 1500-2000 par année, mais on voit là, c'est à peu près autour de 300-400 le nombre de décès au Québec.
Par une année que ça a monté à 5 000, ça se peut-tu il y a 5-6 ans?
J'ai pas ces données-là, Éric, mais si tu l'as, écoute, partage-la, parce que, mais je sais qu'il y a 2000 facilement, là, 2000 facilement, mais en général, on parle de 300-400 décès par année de la grippe. Puis pour l'heure, actuellement, au Québec, on est à 36, là. Moi, j'ai pas eu les dernières données.
Si on est à 36.
Mais on a 36 décès à l'heure qu'on se parle au Québec, puis 5500 ou à peu près cas, qu'on connaît au Québec. C'est quand même, je te dirais, relativement sous contrôle. Puis je sais pas si tu as vu aussi, Éric, je sais pas si tu as le temps encore d'en discuter, mais la Suède et le Danemark, là, ce sont des pays actuellement scandinaves qui, n'ont pas appliqué le confinement comme en Amérique du Nord.
On a même parlé à un gars qui était à Stockholm cette semaine, qui nous a expliqué exactement comment ça se passe. Il va dans un restaurant, dans un bar, tout est ouvert, les écoles sont ouvertes. Ils ont vraiment un protocole totalement à l'opposé. Je veux finir, parce que Marc, t'es aussi propriétaire des cliniques Lacroix, qu'on connaît bien ici dans la région de Québec.
Oui.
Toi, des cliniques privées, est-ce que vous êtes mis à contribution dans la lutte au coronavirus par le gouvernement? C'était ma dernière question que je voulais te poser.
Bon, pas pour le moment, je te dirais, parce que on a quand même envoyé une lettre au sous-ministre là récemment pour voir est-ce qu'on pourrait vous être utile, est-ce que vous auriez besoin de nous en télémédecine ou autre. On a comme levé la main pour voir est-ce qu'il y aurait de l'intérêt à collaborer avec le réseau public. On a eu, c'est drôle, un téléphone ce matin, là, je crois que c'est du DRMG de la région de Québec qui nous a contactés pour voir nous référer à une personne qui doit probablement nous parler aujourd'hui. Là, j'ai pas de nouvelles, mais en tout cas, sache qu'on a tendu la main. Et sache aussi que les cliniques Lacroix, là qu'on se parle, on est en télémédecine, là, plus de 75% des consultations qu'on effectue à ce jour-là sont des consultations de télémédecine. Donc, on est capable d'avoir accès à son médecin, qu'on soit membre ou non des cliniques Lacroix. Vous avez besoin de voir un médecin, de rencontrer un médecin, ça se fait par téléphone ou par télémédecine, donc devant un écran d'ordinateur, pour avoir une consultation le jour même avec un de nos médecins. Ça coûte 99 $. Il n'y a pas de frais d'ouverture de dossier, il n'y a quoi que ce soit. Donc, vous avez besoin de faire renouveler une prescription. Vous n'êtes pas capable de vous déplacer, voir un médecin. Vous filez pas, vous êtes inquiet, vous voulez poser des questions par rapport à la situation du coronavirus. On a accès avec notre télémédecine là partout au Québec. On a plusieurs centaines de consultations par jour actuellement qui se font de cette façon-là. Donc, si on peut aider les gens de cette manière-là, ça va nous faire plaisir.
Bien, Marc Lacroix, c'est toujours un plaisir de se parler. Merci beaucoup de nous d'avoir pris le temps de nous jaser de ça aujourd'hui.
Avec plaisir, Éric. Bonne journée.
Au revoir. C'était le docteur Marc Lacroix, propriétaire des cliniques Lacroix.